Vous écoutez, on lit pour vous.
Obésité, le temps est venu de changer les perceptions. Un texte de Frédéric David paru le 25 novembre 2024 dans Avantage. Bien qu'il s'agisse d'une maladie chronique, l'obésité s'accompagne encore d'une honte des chiffres inscrits sur la balance. Pourtant, quand on fait de la température, on n'a pas honte de voir 40,2 au thermomètre, constate Tammy Cadieux, infirmière clinicienne au Centre de médecine métabolique de La Naudière. Le poids est le symptôme de l'obésité. Traiter cette maladie est beaucoup plus complexe que dire simplement aux gens de faire attention et de se prendre en main. Indéniablement, perdre 50 kilos ne représente pas le même défi qu'en perdre 2. La personne a besoin de comprendre comment arriver à perdre autant de poids et cela ne se fait pas tout seul, mentionne Tammy Cadieux. Elle a besoin d'avoir accès à des services, surtout via son employeur et à différentes ressources. L'infirmière insiste donc pour que les régimes d'assurance collective permettent aux personnes souffrant d'obésité d'avoir accès à de multiples services, au-delà de la simple évaluation par un nutritionniste au coût de 150 $ et par un kinésiologue au coût de 250 $. Quand l'assurance rembourse 500 $ par année, cela couvre uniquement ses évaluations. La personne ne sait plus quoi faire après, déplore l'infirmière. L'obésité est complexe et exige un suivi avec un médecin, un nutritionniste, un psychologue, un kinésiologue, une infirmière pour gérer la globalité de la maladie. Cette globalité est d'autant plus importante que l'obésité s'accompagne de nombreuses complications, comme les ovaires polykystiques, la cirrhose du foie, l'hypertension, l'hypercholestérolémie et les troubles du sommeil. Les troubles de santé mentale sont également très présents et ont un impact sur l'estime de soi, ajoute Tammy Cadieux. En ce qui concerne la médication, l'infirmière précise que c'est un incontournable et qu'il est important de rembourser les traitements, mais aussi d'assurer un suivi. Sans suivi, la personne perd du poids, mais aussi de la masse musculaire, ce qui entraîne d'autres problèmes, dit-elle. Il est nécessaire de couvrir la médication, mais aussi d'accompagner le patient. Il faut changer les perceptions pour que les gens comprennent que l'obésité engendre beaucoup de souffrances et de complications, conclut Tammy Cadieux. C'est une maladie chronique qu'il faut traiter en mettant en place toutes les stratégies pour encadrer, soutenir, donner les outils nécessaires afin que la perte de poids se maintienne à long terme et entraîne une amélioration de la santé globale. C'était « Obésité ». Le temps est venu de changer les perceptions. Un texte de Frédéric David paru le 25 novembre 2024 dans Avantage.
Comment l'expliquer? Un texte de Gabriel Duchesne et Ariane Lacourcière paru le 25 novembre 2024 dans la presse. Pourquoi les enfants d'âge primaire sont-ils moins autonomes qu'avant? L'exposition aux écrans est dans la ligne de mire des experts et des intervenants sur le terrain, qui pointent aussi les parents et l'évolution de la société. Trop d'écrans. Ils sont comme hypnotisés par ça. J'ai arrêté de faire des causeries du lundi parce que j'entendais juste des récits d'écran. J'ai joué à tel jeu. Même s'il faisait beau dehors, les jeunes ne sortaient pas. Sylvie, enseignante au premier cycle. L'augmentation du temps d'écran chez les enfants est documentée. Son impact à long terme est encore à l'étude. Il est difficile de statuer scientifiquement sur un lien de cause à effet très clair, explique Andréane Melançon, conseillère scientifique spécialisée en développement de l'enfant à l'Institut national de santé publique du Québec, qui s'occupe des dossiers petite enfance 0-5 ans. Mais les experts notent tout de même un certain lien. À mesure que l'usage quotidien du temps écran augmente, les enfants sont plus susceptibles d'être vulnérables dans au moins un domaine de développement. Les enfants qui font 2 heures et plus d'écran par jour sont significativement plus à risque d'être vulnérables dans un domaine de développement, dit Madame Melançon. Ce n'est pas l'écran qui est le problème, mais son utilisation inappropriée. Il y a un resserrement à faire, dit le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, Carl Ouellet. Son organisme fait état de retards langagiers, de problèmes de comportement et d'une hausse des mesures de contention aux primaires. Est-ce que c'est entièrement la faute des écrans? On se questionne. On veut que les parents soient davantage sensibilisés à l'impact que ça peut avoir sur leur enfant. Marie-Ève, enseignante en Estrie, raconte « Quand les parents m'écoutent et coupent les écrans la semaine, ils voient que leur enfant a un meilleur sommeil et qu'il fait de meilleurs apprentissages. » L'importance de jouer dehors. Les parents sont plus inquiets qu'avant. Ils viennent reconduire les enfants jusqu'à la clôture de l'école. Ils ne les laissent plus marcher seuls. Et les enfants aussi sont de plus en plus anxieux. Sylvie, enseignante au premier cycle. Les parents laissent-ils suffisamment d'autonomie aux enfants? Des enseignants s'en inquiètent. L'autonomie dans les tâches, c'est long à acquérir, remarque Julie, enseignante du Grand Montréal. Les parents font plus pour leurs enfants, car tout doit être fait vite. Depuis 7 ans environ, j'écris aux parents que quand on fait quelque chose à la place du tout-petit, on envoie le message qu'il n'est pas bon et pas capable de le faire. Sylvie note que de nombreux parents sont épuisés. On a diminué la charge de devoirs parce que les parents n'y arrivaient pas. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, je les comprends. Elle souligne aussi que de plus en plus de parents ne se mobilisent pas devant les difficultés de leur enfant. Ça prend parfois 2 ou 3 ans avant que les parents réalisent que leur enfant est en difficulté. Apprendre à attendre. La vie va tellement vite que les parents n'ont plus le temps d'enseigner aux enfants à attendre ou à utiliser la politesse. Plusieurs parents achètent la paix en donnant leur téléphone à leur enfant pour l'occuper à la moindre période d'attente. Marie-Ève, enseignante au premier cycle. Attendre, ça s'apprend. Et pas devant un écran, explique Noémie Quentin. Si chaque fois que l'enfant a besoin d'attendre, il est impatient et on lui donne l'écran, on n'est pas en train de lui apprendre à attendre. On lui donne un renforcement positif sur un comportement qu'on ne veut pas nécessairement voir, dit Madame Quentin. Au lieu d'utiliser la tablette, si au restaurant, par exemple, le parent joue avec l'enfant à un jeu aux devinettes, il apprend à attendre et apprend que ça peut être positif d'attendre parce que ça amène une interaction positive avec les parents, souligne Madame Quentin. Ça met la table pour les interactions sociales futures dans des situations où il faut attendre, par exemple, en file à l'école. C'était « Comment l'expliquer », un texte de Gabriel Duchesne et Ariane Lacourcière, paru le 25 novembre 2024 dans la presse.
Les enfants parrainés, une source de motivation. Un texte de Gabriel Sartou, paru le 25 novembre 2024 dans l'Info du Nord. Le 24 heures tremblant est bien plus qu'un défi sportif ou une collecte de fonds. Chaque année, les enfants parrainés incarnent l'espoir et rappellent l'importance de chaque dollar ramassé pour soutenir ceux qui font face à des défis quotidiens liés à la maladie ou aux troubles divers. Rencontre avec les enfants de la région. Abby, une battante de Sainte-Agathe. À seulement 15 mois, Abby Robitaille a été diagnostiquée avec la maladie de Gaucher, une condition héréditaire rare causée par un déficit enzymatique. Cette maladie entraîne de nombreux défis comme des essoufflements, des complications pulmonaires, une fatigue persistante et des limitations dans ses mouvements. Plus récemment, en avril 2024, Abby a également reçu un diagnostic d'arthrite juvénile, ajoutant une nouvelle épreuve à son quotidien. Malgré tout, cette petite fille de 9 ans reste une source d'inspiration par sa persévérance et son enthousiasme. Comment je fais pour me motiver? Je me lave le visage avec des débarbouillettes qui sont froides tous les jours. Elle ajoute « J'ai plus de bonne humeur quand j'ai des cours d'édu, éducation physique, à l'école. J'aime le basket et les parcours. J'ai déjà fait du ski, mais je ne savais pas comment arrêter. Ça a tourné. Et là, j'ai foncé dans une clôture », raconte-t-elle en riant. Mélodie, un message d'acceptation. À 16 ans, Mélodie Lavoie, une adolescente dynamique et pleine de vie de Sainte-Adèle, jongle avec le trouble du spectre de l'autisme, TSA, un trouble anxieux généralisé, TAG, et un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Sa singularité et son énergie inspirent ceux qui l'entourent. Pour elle, le 24 heures tremblant est un événement porteur de sens. Moi, cet événement-là signifie qu'on assume les différences. Ça aide beaucoup pour les jeunes en difficulté. Je veux montrer aux filles de mon âge que la différence, ce n'est pas quelque chose qui va avoir un impact. Aussi, être bizarre, c'est pas forcément un défaut. Au contraire, c'est une qualité. C'est ce qui fait qu'on est unique dans nos genres. Lorsqu'elle parle de sa motivation, Mélodie revient toujours à l'importance du soutien familial. Il y en a plein de sources de motivation. Moi, je dis que c'est pas mal la famille la meilleure source de motivation. Quand tu vois que ta famille est là pour te soutenir, c'est juste la meilleure motivation. Cet événement-là signifie qu'on assume les différences. Ça aide beaucoup pour les jeunes en difficulté. Mélodie, 16 ans. Un défi inspirant. Le 24 heures tremblant réunit des participants, des bénévoles et des enfants parrainés, tous unis par la même volonté de faire une différence. Ingrid Falaise, ambassadrice de l'événement, raconte l'un des moments les plus marquants du 24 heures tremblant. Le vendredi, on fait les premières traces. Ce sont les enfants qui ouvrent la piste avant tout le monde. Et il y a des enfants qui essaient le ski pour la première fois. C'est toujours un moment bien émouvant. Un beau moment. Pour une grille de falaise, l'essence même du 24 heures tremblant réside dans le dépassement de soi pour une cause noble. On a bien hâte à ce week-end de festivités. Relever un défi comme skier ou courir pendant 24 heures, c'est gros, mais on ne dort pas. Et ce n'est pas grave, parce qu'on sait qu'il y a des enfants et des familles qui ne dorment pas et qui combattent la maladie au quotidien. Alors pour nous, ça va de soi. C'était Les enfants parrainés, une source de motivation, un texte de Gabriel Sartou, paru le 25 novembre 2024 dans l'Info du Nord.
Walmart abandonne ses politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, un texte d'Anne D'Innocenzio, paru le 26 novembre 2024 dans la presse. Les changements confirmés par Walmart lundi sont radicaux et vont du non-renouvellement d'un engagement de 5 ans pour un centre d'équité créé en 2020 après le meurtre de George Floyd par la police au retrait d'un important index des droits des homosexuels. Et lorsqu'il s'agit d'ethnicité ou de genre, Walmart n'accordera pas de traitement prioritaire aux fournisseurs. Les mesures prises par Walmart soulignent la pression croissante avec laquelle sont aux prises les entreprises américaines alors qu'elle continue de faire face aux retombées de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin 2023, mettant fin à la discrimination positive dans les admissions à l'université. Enhardis par cette décision, des groupes conservateurs ont intenté des poursuites en utilisant des arguments similaires contre les entreprises, ciblant des initiatives sur le lieu de travail, tels que des programmes de diversité et des pratiques d'embauche qui donnent la priorité aux groupes historiquement marginalisés. Par ailleurs, le commentateur politique américain et militant conservateur Robbie Starbuck s'en est pris aux politiques DEI des entreprises en appelant des entreprises individuelles sur la plateforme de médias sociaux X. Plusieurs de ces entreprises ont par la suite annoncé qu'elles retiraient leurs initiatives, notamment Ford, Harley-Davidson, Molson Coors, Lowe's et Tractor Supply. Mais Walmart, qui emploie 1,6 million de travailleurs aux États-Unis, est la plus importante à le faire. C'est la plus grande victoire à ce jour pour notre mouvement visant à mettre fin au wokisme dans l'Amérique des entreprises, a écrit Robbie Starbuck sur X, ajoutant qu'il avait eu des discussions avec Walmart. Walmart a confirmé à Associated Press qu'elle surveillerait mieux les articles de ses marchés tiers pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de produits sexuels et transgenres destinés aux mineurs. Cela inclurait les bandages de poitrine destinés aux jeunes qui traversent un changement de sexe, a précisé l'entreprise. Le détaillant établi à Bentonville, dans l'Arkansas, examinera également les subventions accordées aux événements de la fierté pour s'assurer qu'il ne soutient pas financièrement des contenus sexualisés qui pourraient ne pas convenir aux enfants. Par exemple, l'entreprise veut s'assurer qu'un pavillon familial ne se trouve pas à côté d'un spectacle de drague lors d'un événement de la fierté, a déclaré l'entreprise. En outre, Walmart ne considérera plus l'ethnicité et le sexe comme un test décisif pour améliorer la diversité lorsqu'il proposera des contrats avec des fournisseurs. L'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas de quotas et qu'elle n'en ferait plus à l'avenir. Elle ne collectera pas de données démographiques pour déterminer l'admissibilité au financement de ses subventions. Walmart a également annoncé qu'elle ne renouvellerait pas un centre d'équité qui a été créé grâce à un engagement philanthropique de 100 millions US sur 5 ans de la part de l'entreprise, avec pour mandat, selon son site web, de s'attaquer aux causes profondes des écarts de résultats rencontrés par les Noirs et les Afro-Américains dans les systèmes d'éducation, de santé, de finance et de justice pénale. Et elle cesserait de participer à l'indice de référence annuel de la Human Rights Campaign, qui mesure l'inclusion sur le lieu de travail des employés LGBTQ+. Nous avons parcouru un chemin et savons que nous ne sommes pas parfaits. Mais chaque décision vient d'un lieu où nous voulons favoriser un sentiment d'appartenance, ouvrir les portes à des occasions favorables pour tous nos associés, clients et fournisseurs, et être un Walmart pour tout le monde, a assuré l'entreprise dans un communiqué. Ces changements surviennent peu de temps après la victoire électorale de l'ancien président Donald Trump, qui a critiqué les initiatives DEI et s'est entouré de conservateurs qui partagent des opinions similaires, y compris son ancien conseiller, Stephen Miller, qui dirige un groupe appelé America First Legal, qui a contesté les politiques DEI des entreprises. M. Trump a nommé M. Miller au poste de chef adjoint de la politique dans sa nouvelle administration. Un porte-parole de Walmart a déclaré que certains changements de politique étaient en cours depuis un certain temps. Par exemple, l'entreprise a abandonné l'utilisation du terme DEI dans les titres de poste et les communications et a commencé à utiliser le mot « appartenance ». L'entreprise a également commencé à modifier son programme de fournisseurs à la suite de la décision de la Cour suprême sur la discrimination positive. Certains ont exhorté les entreprises à s'en tenir à leur politique DEI. Le mois dernier, un groupe de démocrates au Congrès a lancé un appel aux dirigeants des entreprises du Fortune 1000, affirmant que les efforts de DEI donnent à chacun une chance équitable de réaliser le rêve américain. C'était « Walmart abandonne ses politiques de diversité, d'équité et d'inclusion », un texte d'Anne D'Innocenzio, paru le 26 novembre 2024 dans la presse.
Les aînés peuvent compter sur le bon voisin. Un texte de Patrick Vaillancourt, paru le 28 novembre 2024 dans l'Hebdo Journal. Le Centre d'action bénévole, CAB, Trait d'union de Shawinigan, lance un nouveau service destiné aux personnes âgées en perte d'autonomie ou avec des limitations fonctionnelles qui sont souvent laissées à eux-mêmes. Des bénévoles se rendront à la demande des gens pour réaliser de menus travaux, comme le ferait le bon voisin. Soutenu par la table d'action et de concertation des aînés de Shawinigan, TACAS, ce projet a été mis sur pied grâce à la concertation et à la collaboration de divers organismes du milieu, dont le Centre d'action bénévole Trait d'union, le Centre d'action bénévole de Grand-Mère, la Ville de Shawinigan, le CIUS MCQ et l'Office municipal d'habitation de Shawinigan. Si on était tous le bon voisin de quelqu'un, on ne serait pas ici aujourd'hui, exprime le directeur général du CAB Trait d'union, Mathieu Gélina. Ce sont des bénévoles qui sont recrutés et qui vont offrir des services de menus travaux à des aînés de Shawinigan et des alentours, Saint-Boniface, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Charette, Saint-Élie-de-Caxton. L'objectif est de répondre à un besoin chez l'aîné, que ce soit changer une ampoule, déplacer des meubles, installer des cadres, des rideaux, un climatiseur. Vous vous souvenez? On a charrié de l'eau pendant la COVID et des aînés nous disaient qu'ils voulaient mourir chez eux. Mais ils ont peur de monter dans une échelle et faire une chute. Plusieurs n'ont personne dans leur entourage pour les aider. On leur offre une superbe solution en appelant le bon voisin pour un prix modique. Les aînés peuvent appeler directement le service Le Bon Voisin au numéro 819-731-3388 ou par courriel à l'adresse info@lebonvoisin.ca pour un tarif de 10 $ pour une demi-heure. En plus du service de menus travaux, il s'agit d'un moyen pour briser l'isolement de ces personnes. Une dizaine de bénévoles ont déjà levé la main et le CAB Trait d'union compte recruter de 10 à 20 bénévoles supplémentaires. Un établi a aussi été construit derrière l'édifice du CAB grâce aux sommes reçues dans le cadre du projet. Les bénévoles sont aussi équipés de sacs à dos avec des outils afin de se déplacer chez les personnes qui font la demande. L'atelier pourra servir à la préparation du matériel avant la visite du bénévole pour réaliser les travaux. C'est gratifiant de pouvoir rendre service à la communauté, explique Philippe Brunel, qui est le coordonnateur de l'équipe de bénévoles. De se rendre chez les personnes aînées pour leur rendre service, c'est valorisant. On voit l'impact qu'on peut avoir chez ces personnes. Il y a un sentiment de briser l'isolement, et on le voit tout de suite. Je suis arrivé au mois de mai pour le début du projet, et c'était une période intense avec l'installation d'air climatisé. Il y a certaines personnes complètement seules qui s'attachent. C'est très valorisant de participer à un tel projet. Le bon voisin a pu bénéficier d'une aide financière du Fonds de relance des services communautaires octroyé par le gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec dans le cadre du volet « Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité » FRR, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ces financements lui ont permis d'engager une ressource, de structurer le service et de procéder aujourd'hui au démarrage de celui-ci. C'était « Les aînés peuvent compter sur le bon voisin », un texte de Patrick Vaillancourt paru le 28 novembre 2024 dans l'Hebdo Journal.
Un nouveau plan d'action du CIS de la Montérégie-Est à l'égard des personnes handicapées, un texte de Sylvain Rochon, paru le 13 novembre 2024 dans CJSO. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est présente son 5e plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Ce plan 2024-2026 vise à renforcer l'accessibilité des soins et services en favorisant l'inclusion et l'égalité des personnes en situation de handicap dans la région. Le CIS de la Montérégie-Est s'engage depuis plusieurs années à identifier les principaux obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap et propose, dans chaque plan d'action, des solutions concrètes pour les surmonter. Un comité, composé notamment de personnes en situation de handicap, veille à identifier les véritables obstacles vécus autant pour les usagers que pour les employés. Le CIS dresse un bilan positif de ses réalisations des dernières années, dont la signature de plusieurs ententes avec des organismes communautaires pour offrir des services de répit aux familles et la mise à jour du plan de mesures d'urgence, évacuation, intégrant des ajustements spécifiques pour le personnel et les usagers à mobilité réduite ou ayant une déficience visuelle. Au cours des deux prochaines années, le CIS de la Montérégie-Est compte mettre en œuvre de nouvelles actions, notamment l'amélioration de la section pour les personnes ayant un handicap du site web Santé Montérégie, afin de la rendre plus conviviale et de faciliter l'accès à l'information pour les usagers et leurs proches. Il compte procéder à l'identification de postes de travail accessibles pour les employés en situation de handicap et favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans des programmes de stage au sein de différentes équipes de l'établissement. C'était un nouveau plan d'action du CIS de la Montérégie-Est à l'égard des personnes handicapées, un texte de Sylvain Rochon, paru le 13 novembre 2024 dans CJSO.